Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Madame, Monsieur, bonsoir. Saloua Jafari en votre compagnie. Bienvenue au Washington Forum. C'est une émission consacrée au Mali que nous vous proposons ce soir. Tout de suite, le sommaire.
Toujours pas d'accord entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Pourquoi les parties concernées tardent-elles à trouver un compromis? Quels sont les points de discorde? Les revendications qui fâchent? Au lendemain de ce nouvel échec, quelles sont les réactions de part et d'autre? Que faut-il faire pour réduire les divergences? Que propose le gouvernement malien et ses adversaires? Enfin, quel avenir pour le Mali? Y aura-t-il une fin heureuse à ce conflit qui n'a que trop duré? Nous parlerons de ces souffrances du peuple malien dans la réalité et puis dans la fiction.
Washington Forum.
Une histoire riche de trois empires, des paysages à en couper le souffle et une culture exceptionnellement riche. Le Mali est pourtant depuis 2012 sur la liste des pays à éviter. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a rompu la paix? En quoi la rébellion Touareg de 2012 est-elle différente? Nous allons y répondre ce soir, mais avant de le faire, je vous propose un retour sur les principaux événements qui ont mené le pays vers ce qu'il est aujourd'hui. Voici une chronologie d'une guerre avancée.
Octobre 2011, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad voit le jour. À l'issue d'une fusion entre le Mouvement national de l'Azawad et le Mouvement Touareg du Nord Mali, les rangs de l'organisation sont aussitôt gonflés par plusieurs groupes d'ex-rebelles Touareg ayant fui le Mali dans les années 1990 pour s'engager dans l'armée libyenne de Muammar Kadhafi. De janvier à avril 2012, le mouvement allié au groupe Ansartine, Moudjao, Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest et ACMI attaque les camps militaires maliens et les villes situées dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. L'armée malienne est prise de court. Mars 2012, le gouvernement est renversé par un coup d'État conduit par des jeunes militaires qui dénoncent son incapacité. Avril 2012, le MNLA décide unilatéralement la fin des opérations militaires à compter du 5 avril à minuit. Deux jours plus tard, il proclame alors l'indépendance de l'Azawad, annonce aussitôt condamnée fermement par la communauté internationale. Juillet 2012, le Moudjao occupe la ville de Gao et y fait appliquer la charia. Janvier 2013, l'armée française entre en guerre au Mali. La France lance l'opération militaire Serval, opération aérienne d'abord, puis terrestre. Février 2013, le président français François Hollande est reçu en héros à Sévaré. La bataille n'est pas gagnée, les attentats suicides se suivent à Gao, puis à Tombouctou, ils ne seront pas les derniers. Juin 2013, le gouvernement malien et le MNLA signent un accord de cesser le feu. Juillet 2013, la mission intégrée de l'ONU pour la stabilisation au Mali MINUSMA est officiellement mise en place. Les élections ont lieu. Ibrahim Boubacar Keïta prête serment.
L'histoire, bien sûr, ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu, bien sûr, plusieurs rounds de négociations sous l'égide de l'Algérie. Le gouvernement du Mali a déjà signé des accords avec la plupart des groupes rebelles en mars 2015. Mais la principale alliance Touareg, la coordination des mouvements de l'Azawad, refuse de paraffer le texte. Pour parler des points de blocage, avec moi sur le plateau, mon collègue Idriss Fall. Idriss, bonsoir.
Bonsoir, Saloua.
Vous avez visité le Mali à plusieurs reprises. Alors, une énième tentative de réconciliation, est-ce une surprise pour vous?
Bon, je crois qu'il y a eu des rébellions au Mali depuis les années 62 et que celle-ci est la dernière et qu'il fallait en arriver là, aller à Alger et discuter. Maintenant, qu'est-ce que ces discussions vont donner? Je crois qu'il y a beaucoup de points de désaccord. Le Mali, Bamako, a paraffé le pré-accord d'Alger, mais le président Ibeka a même annoncé ce matin qu'ils ont 12 pages d'amendement de cet accord qu'ils viennent de paraffer. Mais au niveau de la commission, la CMA, la convention des mouvements de l'Azawad, je crois qu'ils ont encore quelques points qu'il faudrait éclaircir. Et il me semble que même vous avez un invité qui pourra même de vive voix dire en fait que veulent le MNLA ou que veut la CMA.
Oui, nous allons parler à un représentant du MNLA tout à l'heure. Vous avez mentionné évidemment les questions qui bloquent, les questions qui divisent.
Les questions qui fâchent.
Les questions qui fâchent. Et vous avez, le ministre des Affaires étrangères malien était à Washington ce lundi. Vous l'avez rencontré.
Effectivement, Abdoulaye Diop donc est venu dans nos studios et comme Bamako a paraphé l'accord, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est que qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'ils ont paraphé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce préaccord? Alors, on écoute Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Sur le plan politique, il est proposé d'aller vers une libre administration des collectivités avec l'élection des organes élus au niveau des régions et au niveau des collectivités comme la commune et comme le cercle. Mais il y a aussi une dévolution importante de pouvoir à ce niveau. Il est envisagé sur le plan sécuritaire la création d'une police municipale, mais aussi de faire en sorte que l'armée qui sera reconstituée puisse davantage refléter la diversité du pays, mais avec la compréhension que ça sera une armée unique.
C'est-à-dire intégrer les anciens rebelles au sein de l'armée.
Bon, ça fait partie des options, parce qu'il y aura une commission de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, qui va décider qui va atterrir dans l'armée suivant un certain nombre de critères, de screening, de vetting, qui se mettra en place pour pouvoir accueillir certains anciens combattants, comme d'autres qui ont déserté un moment les forces armées, mais aussi d'autres peuvent finir dans la vie civile.
Supposons Kidal, on doit élire un gouverneur. Est-ce que ce n'est pas donner aux populations de Kidal le droit d'élire un gouverneur Touareg? Est-ce que l'État ne perd pas?
Vous savez, le Mali n'a absolument aucun problème à ce qu'un Touareg occupe une responsabilité, fût-elle au niveau de la présidence de la République du Mali. Il vous souviendra que le Mali a été le premier pays de la région à avoir un premier ministre Touareg. Mais ce qui est en question, c'est que toutes les régions du Mali désormais auront des instances régionales, des conseils régionaux qui seront élus au suffrage universel direct. Il y a quand même des pouvoirs régaliens qui vont rester au niveau du pouvoir exécutif central. Notamment, le pays n'aura qu'un seul drapeau, et qu'une seule monnaie, qu'une seule diplomatie, qu'une seule armée et qu'une seule justice.
Réintégrer les anciens rebelles au sein de l'armée, alors que l'histoire a montré que la plupart du temps, avec tous les accords antérieurs, ce sont ceux-là même qui vont retourner leurs armes contre le peuple malien.
Ça, c'est vrai. Et c'est aussi une préoccupation légitime de beaucoup de Maliens. Mais pour la paix, nous sommes encore disposés à faire des sacrifices, mais pas les yeux fermés. C'est pourquoi cette fois-ci, nous avons estimé que l'intégration doit se faire en tenant compte du contexte nouveau. Le contexte nouveau, c'est quoi? Dans les années 90, l'intégration a été essentiellement marquée dans un endroit où il n'y avait pas de terrorisme. Cette fois-ci, nous l'avons. Donc c'est pourquoi nous sommes obligés, dans le cadre des recrutements, de mettre des procédures et des critères rigoureux qui permettent aussi de faire un filtrage qui permettra d'éviter que des éléments terroristes n'atterrissent au niveau de l'armée nationale. C'est notre seule préoccupation.
Donc, quelles sont les garanties que vous avez, comme quoi cette fois-ci, c'est la bonne?
Bon, vous savez, il nous faudra faire une étude rigoureuse pour comprendre les raisons. Il y a diverses raisons, il y a diverses motivations qui ont fait qu'à un moment donné, certaines dispositions de certains de ces accords n'ont pas été appliquées. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas de bons accords non plus. Cette fois-ci, il y a deux innovations majeures, comme on n'a pas assez de temps pour aller dans le détail. Le premier, c'est que dans les précédents accords, rarement les populations ont eu leur mot à dire. Et dans ce processus-ci, les populations ont pu parler, la négociation a pratiquement été faite sur la place publique. Le deuxième facteur aussi, c'est le rôle de la communauté internationale et de la médiation. Aujourd'hui, cette médiation sera transformée en comité de suivi international, qui est vraiment un mécanisme rigoureux de suivi de l'accord, y compris, il est envisagé dans l'accord aussi, la mise en place d'un observateur indépendant.
Et quelle est la valeur d'un accord qu'on va signer alors qu'on sait que toutes les rébellions qui ont eu lieu au Mali depuis les années 90, il y a un seul individu qui est derrière tout ça, il s'appelle Iyad Agali. Qu'est-ce que vous allez faire d'Iyad Agali?
Bon, vous savez, cet individu auquel vous faites référence est un terroriste qui est listé sur la liste des terroristes les plus recherchés par les Nations Unies, par les États-Unis également. Maintenant, nous ne pouvons discuter avec les groupes terroristes. Nous ne pouvons discuter qu'avec ceux qui acceptent les règles de la République et ceux qui prennent leur distance avec les groupes terroristes.
Ma dernière question, c'est sur l'impunité. De nombreuses atrocités ont été perpétrées dans le nord du Mali, notamment des soldats maliens égorgés à Aguelok, des femmes violées à Gao. Au nom de la paix, est-ce qu'on doit sacrifier tout cela, mettre l'impunité sur les pertes et profits?
Ce qui s'est passé à Aguelok, comme ailleurs, sera puni. Ce qu'on dit aussi dans le cadre de cet accord, c'est que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes sexuels, en particulier contre les femmes et les enfants, ne seront pas amnistiés.
Voilà, c'était le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop. Pour l'intégralité de l'entretien, je vous invite à aller sur notre site internet, voaafrique.com. Idriss, vous avez longuement parlé à M. Diop. À votre avis, à quel point le gouvernement malien est-il ouvert à la négociation? Y a-t-il une marge pour le compromis?
Je crois qu'ils ont dit, et même Ibrahim Boubacar Keïta, le président, l'a réitéré ce jeudi matin à Bamako pendant le sommet du CILS. Ils ont paraphé le document, ils ont des amendements, il a même invité les groupes du Nord à paraphé le document. Donc apparemment, Bamako dit être prêt à aller de l'avant dans les négociations. C'est une affirmation, mais ça, je pense que c'est la partie adverse qui pourrait vraiment juger est-ce que les intentions de Bamako sont bonnes ou pas bonnes.
On va y arriver. Merci Idriss. Nous devons rendre l'antenne. Je vous retrouve dans quelques instants.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Rebonsoir, merci de rester avec nous. Nous avons écouté il y a quelques instants l'entretien d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères malien. Le texte paraphé par le Mali parle de l'Azawad comme réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique. Ce n'est visiblement pas suffisant pour certains groupes de l'Azawad. Pour en savoir un peu plus, en direct avec nous de Barcelone, le représentant du MNLA en Europe, Moussa Agassarid. Monsieur Moussa Agassarid, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'accepter notre invitation. Une question directe, quelles sont brièvement vos revendications?
Nos revendications sont simples. Comme l'a dit votre journaliste sur le plateau, cela fait plus de 50 ans que nous sommes en train de revendiquer le droit d'exister sur notre territoire et de nous autogérer. Et le point principal, c'est que l'Azawad ait un statut juridique, politique et territorial, ce qui n'était pas le cas avant. Et qu'on puisse participer de façon active et de façon vraiment déterminée à la sécurisation de notre territoire et au développement de notre territoire. Et cela n'a pas été le cas par le passé. Le ministre en personne l'a reconnu tout à l'heure. Et on ne peut pas revenir à la décentralisation parce que Bamako propose la décentralisation. Le ministre a parlé de la libre administration avec un président de région qui sera élu au suffrage universel direct. Il y avait déjà un président de région qui était élu au suffrage universel indirect. Cela ne peut pas trouver une solution au problème actuel. Il y a un vrai problème aujourd'hui pour lequel il faut trouver une solution, et la solution, c'est politique. Aujourd'hui, dans le document que l'on nous propose, il n'y a même pas la détermination des partis. C'est-à-dire que vous ne trouverez nulle part dans le document la coordination des mouvements de l'Azawad. Et pourtant, c'est cette coordination-là, dans laquelle coordination il y a des personnes ici de toutes les communautés de l'Azawad. Il n'y a pas que des Touaregs, et qui revendiquent tout simplement à s'auto-gérer et de prendre son destin en main. En ayant quelque chose en commun, bien sûr, c'est-à-dire des pouvoirs partagés avec Bamako, mais nous ne pouvons plus nous satisfaire de promesses. Et nous avons assez signé d'accords avec des promesses qui n'ont pas été tenues. Le ministre l'a reconnu aussi. Et je peux vous dire aujourd'hui que la population de l'Azawad, dans sa diversité, est en train de marcher de façon quotidienne, de réclamer son droit. Et pourquoi nous ne pouvons pas trouver une solution? Parce qu'un accord, c'est un contrat, avec un consentement, avec des compromis. Et cela n'est pas le cas aujourd'hui à Alger. Je suis désolé de le dire, on est en train de nous imposer un document dans lequel nous ne sommes même pas
cités, Monsieur Agassarid,
dans lequel nos préoccupations ne sont pas prises en compte.
Alors, revenons un peu en arrière, parlons de promesses non tenues. En 2012, quand vous avez lancé la rébellion, vous vous êtes allié à des groupes de notoriété terroriste, Ansar al-Din, Al-Qaïda, dont le Maghreb islamique. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez ces choix?
Non. Nous ne sommes jamais alliés à Al-Qaïda ni au Mujaho. À l'époque, Ansar al-Din n'était pas sur la liste des organisations terroristes. Et même là, nous avons eu un consentement qui n'a duré que quelques heures, juste parce que aussi, Ansar al-Din était aussi en train de discuter, notamment à Ouagadougou avec le médiateur de la CEDEAO, mais aussi à Alger avec l'actuel médiateur. Donc on ne peut pas nous accuser d'avoir eu alliance avec ce groupe. Ils étaient déjà sur le territoire depuis 2003. Et ce n'est pas nous qui les avons amenés sur le territoire de l'Azawad. Donc cela ne peut pas être un argument pour quiconque veut trouver la paix. Nous sommes des Azawadiens, nous sommes des autochtones et nous voulons discuter avec le gouvernement avec lequel nous sommes en belligérance. Et aujourd'hui, ceux qui ont signé en dehors du gouvernement, ce sont des milices du gouvernement qui ont été créées de toutes pièces et qui sont pro-gouvernement malien, donc pro-Bamako.
Monsieur Agassarid, vous avez dit que vous étiez Azawadien. Êtes-vous malien?
Nous avons accepté l'intégrité territoriale du Mali, mais nous ne pouvons pas tout abandonner. Notre lutte dure plus de 50 ans. Votre journaliste l'a rappelé, depuis 1962, depuis même 1958, nous sommes en train de nous battre.
Non.
Si le gouvernement veut trouver une solution, je dis bien, ce n'est pas une question d'être malien ou de ne pas l'être, c'est une question de nous convaincre qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre dignement et librement sur notre territoire, ce qui n'a pas été le cas depuis 1960 à nos jours. Il faut accepter de reconnaître les massacres qui ont eu lieu depuis toutes ces années-là, accepter que la justice soit équitable pour tous, ce qui n'a pas été le cas aussi jusqu'à maintenant. Donc, je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui, mais c'est aux actes, c'est aux hommes et aux femmes responsables aujourd'hui de décider en commun accord et avec un consentement.
Monsieur Agassarid,
ne va plus nous imposer ce que nous ne pouvons pas accepter.
Merci beaucoup, Monsieur Agassarid. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Idrissa, une réaction à ce qu'il vient de dire?
Je crois que les désaccords sont là, sur la question de l'armée, sur la question du conseil interrégional incluant Gao, Tombouctou et Kidal, sur la question de qui va intégrer l'armée, sur la question de ces forces municipales. Les rebelles veulent que 80% de cette force vienne du Nord. Donc, pour le moment, Bamako dit, mais venez, on va discuter de tout ça. Mais vous l'avez entendu, il n'a pas donné de réponse claire. Est-ce qu'ils vont continuer à discuter sur des points pour se faire rouler dans la farine, selon ses propres mots? Donc, on va voir, quoi.
Alors parlons maintenant de ces groupes les plus controversés, les groupes islamistes, Ansar al-Din, Mujaho, Aqmi, Al-Murabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Chacun sa dogme, chacun ses zones d'influence. L'instabilité dans le pays leur a permis de gagner du terrain et c'est la raison principale invoquée par la France pour intervenir militairement dans le pays. Pour en parler davantage avec nous au téléphone de Paris, l'amiral Alain Goldefy. Il est ancien inspecteur des armées de France. Il est actuellement directeur de la revue Défense Nationale. Amiral, bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'opération Serval est terminée, mais les troupes françaises sont toujours sur le terrain sous le nom opération Barkhane. Concrètement, qu'est-ce que fait l'armée française au Mali pour repousser les groupes islamistes?
Alors l'opération Serval était l'opération coup de poing qui arrêtait les groupes terroristes islamiques qui étaient très proches de Bamako et qui risquaient prendre possession de la capitale malienne. Donc cette opération a été terminée, comme il a été dit dans votre reportage, au début de l'année 2013. Et depuis, l'opération Barkhane a pris la suite. C'est une opération qui couvre en réalité toute une zone sahélienne, pas simplement le Mali, hein, puisqu'il y a aussi le Niger, le Burkina, etc. Et qui a plusieurs missions, bien sûr, qui se déclinent, principalement sur le territoire malien, mais ailleurs, et qui vise à, en complément de la mission des Nations Unies, qui regroupe déjà près de 10 000 personnes, qui vise à permettre aux parties prenantes de décider de leur avenir en trouvant une solution politique. Donc, il y a des actions militaires encore, régulièrement. Il y a des actions qui visent à lutter contre les terroristes, dont vous savez qu'ils font une base arrière pour des opérations en Europe, et donc ça intéresse la France, mais aussi ses voisins européens. Mais il n'y a aucune autre implication, si ce n'est d'aider les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, etc., à se défaire du terrorisme. Il y a parfois des opérations purement nationales, en particulier les opérations aériennes peuvent être menées que par les avions français à ce stade. Mais voilà, donc je pense que pour la France et pour l'opération Barkhane, c'est de permettre de trouver la solution politique, parce que vos interlocuteurs précédents l'ont très bien dit, même s'ils n'étaient pas d'accord, il y a une solution qui ne peut être que politique. Sachant que pour la France, les lignes rouges ont été définies depuis très longtemps, l'intégrité territoriale, on peut discuter des frontières, etc., elle est intangible, ne touchera pas aux frontières du Mali en particulier. Maintenant, à l'intérieur du Mali, c'est aux Maliens de trouver les solutions entre eux. Sachant que le terrorisme, il dépasse largement, ne s'arrête pas à la frontière. Donc on est obligé d'avoir une vision très large des enjeux, de s'appuyer sur d'autres, avec d'autres alliés, bien sûr, et de permettre que l'ONU, la légitimité internationale, permette ce dialogue. Voilà, merci. En gros, si vous voulez, le Barkhane.
Merci, amiral. Merci de ces éclairages. Merci. Avant de refermer cette émission, je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé en 2012, quand les groupes islamistes ont envahi plusieurs régions du Nord. C'est alors que plusieurs cités comme Gao, Tombouctou ont été le théâtre de scènes d'horreur. La charia est appliquée, en tout cas leur version de la charia, une version très stricte. Mon collègue Roger Montou s'est joint à nous. Bonsoir mon Roger.
Bonsoir Saloua. Effectivement, Abdirahman Sissako a été dans la région. Nous l'avons rencontré à UVA, l'Université de Virginie, et tantôt, là, vous avez dit, Saloua, Gao et Tombouctou étaient le théâtre des scènes horribles, et Abdirahman n'en dit pas moins.
La crise malienne a été et est toujours un choc, hein, et une souffrance pour ceux qui aiment ce pays, et pour ceux qui aiment l'Afrique. La sous-région, comme on dit, hein, qui est atteinte de façon... Il n'y a pas que le Mali. Hein. Le Mali est le théâtre de quelque chose. Je souffre en tant que Malien, Mauritanien, Africain, Sahélien, disons. Et je souffre en tant qu'être humain, tout simplement. Je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que cette crise difficile... et aura sa fin. Et ce que nous souhaitons, c'est une fin plus rapide. Et je pense que ça fait partie des raisons qui ont fait que je décide de faire ce film pour pouvoir contribuer à ma façon et à dénoncer quelque chose.
Abdirahman, qui avait été nominé cette année pour l'Oscar du meilleur film étranger grâce à Tombouctou, était de passage pour intervenir dans 5 des institutions et universités américaines parmi les plus prestigieuses. Un périple important pour le grand vainqueur de la 40e soirée des Césars, où son œuvre a raflé 7 récompenses, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur.
Non, l'étudiant, hein, de façon générale, doit être une curiosité, il doit être curieux, disons. Et pour moi, la plupart sont des jeunes qui découvrent souvent une cinématographie, parce que le cinéma africain n'est pas très diffusé, Donc c'est dans des contextes comme ça que certains jeunes découvrent certaines problématiques du continent aussi, découvrent aussi sa beauté aussi du continent, parce que l'Afrique, c'est pas que des problèmes, hein. C'est aussi d'autres dimensions que les gens découvrent, ils se passionnent.
Qu'est-ce que vous conseillez, Abdramane Sissako, à tous ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui, ces jeunes Africains surtout, qui veulent être comme vous, qui veulent suivre votre chemin?
Je conseille aux jeunes de croire en eux-mêmes, hein, et de croire vraiment à ce continent. Hein. Africa is beautiful.
Roger Sissako est mauritanien, mais il a su traduire la souffrance du peuple malien avec un subtil mélange de réelle tragédie et de dérision, d'humour et de gravité. Est-ce utile, l'art, pour servir une cause?
Mais écoutez, Salwa, d'après lui, c'est un acte de haute diplomatie culturelle qui donne au pays un nouveau souffle au plan international et à la nation. Une image, il voulait dire, autre que celle des horreurs diffusées au quotidien. Il a si bien dit aussi durant notre entretien que son rôle de cinéaste, hein, est le témoignage pour les autres. L'art remplit cette fonction, Salwa.
Voilà, cette émission est terminée. Idriss, Roger, merci d'avoir participé à cette émission. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre site voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Pour télécharger ces leçons, allez sur le site internet www.lavoixdelamérique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » et retrouvez les leçons d'anglais spéciales Sénégal. Robin, une journaliste canadienne, fait un reportage sur des critères de choix de candidats politiques. Elle tend son micro à trois personnes qui donnent leur avis et des critères de choix, parfois surprenants. Écoutons ce micro-trottoir. Nous allons écouter Robin et ses trois interviewés. Vous répondrez vrai ou faux, true or false, à ces deux énoncés. 1. L'habillement des candidats est important pour Mariam. 2. Pour Jacques, le niveau d'éducation des candidats est moins important que leur programme. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. De quel genre de candidat ne veut pas Mariam? 2. Qui mort regarde-t-il? 3. Qu'est-ce que tous les candidats ont d'après Jacques? Vous allez enfin apprendre à exprimer une intention en utilisant le futur avec « will ». Nous allons écouter ce conversation.
Hello, listeners. I'm Robin Dwight. Today, I will be speaking to three very different people about how people choose a candidate during an election in this part of the world. Mariam, let's start with you.
The way a candidate dresses is very important to me. The right candidate must have elegance and use body language. Their hands, their voice, and their eyes are extremely important.
Moore, what do you think?
It's simple. I'll look at their wives or husbands. If they look happy, good. That means the candidates will make us happy.
Oh, come on.
Jacques, it sounds like you disagree. What do you look for in a candidate?
Most importantly, I consider the education level. We don't want ignorant people in office. We need educated candidates with a good program.
But Jacques, we can't trust their programs. Many candidates have nice promises and nice manners, but they will change their programs once they're elected.
Why not vote for the candidate you know personally? I will vote for my neighbor. He's a good candidate and a nice neighbor.
But he's not very handsome. And I don't like his accent.
I will vote for a candidate who will reduce prices and raise workers' salary.
Jacques, you don't agree.
Of course, I disagree. I have no salary. I run a small business, so I will vote for the candidate who will increase prices and decrease salaries.
Jacques, I'm so glad you're not a candidate. Nous avons entendu Robin s'entretenir avec Mariam, Maure et Jacques. L'énoncé 1 est vrai. L'habillement des candidats est important pour Mariam. L'énoncé 2 est faux. Pour Jacques, le niveau d'éducation des candidats est moins important que leur programme. Voilà les réponses aux questions. 1. De quel genre de candidat ne veut pas Mariam? De candidat ignorant. 2. Qui mort regarde-t-il? Les femmes des candidats et les maris des candidates. 3. Qu'est-ce que tous les candidats ont, d'après Jacques? Une bonne éducation et de belles promesses. Écoutez et répétez ces phrases de Maure et de Jacques.
I will vote for my neighbor. I will vote for a candidate who will reduce prices.
I will vote for the candidate who will increase prices.
Maure et Jacques ont utilisé le futur simple avec will, qui est invariable à toutes les personnes. On pourrait dire, he will change the law. He will improve agriculture. Ce futur exprime des intentions, pas des actions certaines à venir. Vous pouvez aussi utiliser la contraction IO ou HEO, etc. pour exprimer les actions futures et des intentions. Par exemple, I'll vote for my neighbor. He'll change the law. You make me proud. Vous avez entendu Robin et ses invités. Vous avez vu que les critères de sélection d'un candidat peuvent être très différents. Vous savez aussi exprimer des intentions avec will. Et vous, pour quel candidat voterez-vous? Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Dans cette leçon, nous allons commencer par les introductions et les présentations. Nos interlocuteurs se trouvent dans un avion. Vous allez les entendre se présenter. My name is Michael. Je m'appelle Michael. Et notez qu'après avoir donné son nom, l'autre personne répond « Nice to meet you ». Heureux de faire votre connaissance. Répétez. Repeat. Nice. Littéralement, c'est bon. To meet. Le verbe rencontrer. You. Le pronom en objet direct. Vous ou te. Nice to meet you. Il est bon de vous rencontrer. Heureux ou heureuse de faire votre connaissance. Vous allez entendre la réponse à cette phrase. C'est la même, sauf pour le dernier mot. Nice to meet you too. To signifie aussi. À ne pas confondre avec to, qui compose tout verbe à l'infinitif. Par exemple, to meet, rencontrer. To walk, marcher. To est un adverbe. Il suffit donc que l'autre personne rajoute to à la fin d'une même phrase pour exprimer un sentiment réciproque. Listen, écoutez.
Hi, my name is Walter, Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael, Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you too.
Aux États-Unis, même dans un contexte commercial ou d'affaires, les gens se présentent par « hello » ou bien « hi ».« Hi » est typiquement américain. Répétez « hi ». Habituons-nous ensemble à cette façon de se présenter. « Hi, my name is Michelle » ou bien « hello, my name is Michelle ». Répétez après moi. « Hi, my name is Mohammed ». Hello, my name is Sophie. Hi, my name is Idrissa. Hello, my name is Moussa. Hi, my name is Chantal. Hello, my name is Frédéric. Écoutons de nouveau la rencontre de Walter et de Michael.
Hi, my name is Walter, Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael, Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you too.
Dans cette rencontre d'affaires qui suit, Max vient de s'installer à Washington. Il vient de San Francisco. Max just moved here from San Francisco.
Max just moved here from San Francisco.
Just moved. Il vient juste d'arriver. Kathy présente Max à Larry.
This is Max Wilson.
Et Larry présente Max à Elizabeth. Vous allez entendre Max. This is Elizabeth.
This is Elizabeth Moore.
Max, voici Elizabeth. C'est une façon très courante de présenter une personne à quelqu'un d'autre. Quand il y a plusieurs personnes présentes, vous allez entendre aussi Larry, have you met Max?
Larry, have you met Max?
Larry, connaissez-vous Max? Avez-vous rencontré Max? Have you met? Vous allez entendre la réponse positive. Yes, I have.
Yes, I have.
Et vous allez entendre aussi la réponse négative. No, I haven't.
Elizabeth, have you met Max?
No, I haven't.
C'est la contraction de no, I have not. Et répétez, repeat. Have you met? Yes, I have. No, I haven't. Listen. Écoutez.
Larry, have you met Max?
Yes, I have. Welcome to Washington.
Thanks, Larry.
Oh, hi, Elizabeth. Elizabeth, have you met Max?
No, I haven't.
This is Max Wilson. Max just moved here from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore.
Nice to meet you, Elizabeth.
It's nice to meet you too, Max.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. Until next time, à la prochaine fois. Michel Joseph à la Voix de l'Amérique, heureuse d'être de nouveau avec vous pour cette leçon d'anglais English USA. Au cours de cette leçon, vous retrouverez Martin Lerner qui assiste à un match de tennis. Il parle de sport et de loisirs avec un joueur de tennis et ses amis. Et vous allez apprendre à exprimer ce que vous aimez et ce que vous aimez faire. English USA est diffusé en direct de Washington. Au micro, Michel Joseph. I like, j'aime. I like tennis. J'aime le tennis. Attention, avec un verbe, on compose la phrase de cette manière. I like to play tennis. J'aime jouer au tennis. I like to play tennis. Ou bien, I like playing tennis.
Thank you for talking with me, Daoud.
You're welcome. These are my friends. This is Juma, and this is Mona.
Hello, I'm Martin Lerner.
Martin is writing a story about me. He's a reporter.
Hi.
Hello. What newspaper do you write for? I'm not a newspaper reporter. I'm a radio reporter.
Oh, I see. Do you like tennis?
Yes, I do. I play tennis, but I don't play very well. Do you play tennis?
No, I don't.
Mona, do you like tennis?
I like to watch. I don't play. Daoud is the only tennis player.
Daoud, do you like other sports?
I like some sports.
What sports do you like?
I like to watch track. I like the running and jumping.
Do you like track, Juma?
Yes, I do. I was a runner in school.
Do you run now?
No, I don't. I like to watch running.
Do you like other sports, Mona?
I like to watch. I don't do anything.
You don't swim or run or play tennis?
No, I don't do anything.
What do you like to watch?
I like to watch tennis. I like basketball.
What other sports do you play, Daoud?
I run.
Do you like running?
Sometimes. I run every day.
I run with Daoud sometimes. Do you run, Mona?
No, I don't run.
What do you like to do?
I like to read. I like to cook. I like to travel. I like to shop.
Yes, she likes to shop. What do you like to shop for?
I like to shop for clothes. Daoud likes to shop, too.
What do you like to shop for, Daoud?
I like to shop for clothes, too.
Daoud, you're a very good tennis player. When did you begin?
I began when I was 10 years old. I lived in Virginia. I began in school.
Did you like to play tennis?
Sometimes.
You liked to play sometimes?
I liked other sports, too. I liked swimming in the summer, and I liked running and other things.
On parle souvent de choses, d'événements, d'activités ou de gens qu'on aime. I like tennis. I like music. I like John. Écoutez d'abord quelques questions et quelques réponses.
Do you like tennis? Yes, I do. Mona, do you like tennis?
I like to watch.
Daoud, do you like other sports?
I like some sports.
What sports do you like?
I like to watch track. I like the running and the jumping.
Do you like track, Juma?
Yes, I do.
Essayons ensemble de répondre à des questions. Do you like sports? Yes, I like some sports. I like running and jumping. À vous. Do you like sports? Do you like tennis? Yes, I like tennis. Do you like track? Yes, I like watching track. Pouvez-vous maintenant répondre aux questions de Martin? Essayez.
Do you like sports? Do you like tennis? Do you like swimming? Do you like running? Do you like track? What tennis players do you like, Daoud?
I like many tennis players. I like Jimmy Connors. I like Andre Agassi.
What tennis players do you like, Mona?
I like Daoud.
We all like Daoud.
I like, j'aime, you like, he likes, she likes, we like, you like, they like. I like sports, j'aime les sports. Do you like sports? I like tennis. Do you like tennis? I like swimming. J'aime la natation. Do you like swimming? Aimez-vous la natation? I like basketball. Do you like basketball? I like soccer. J'aime le football. Do you like soccer? I like running. J'aime courir. Do you like running? I like jumping. J'aime sauter. Do you like jumping? I like to shop. J'aime faire des courses. I like to work. J'aime travailler. I like to play. J'aime jouer. I like to watch. J'aime regarder. I like to watch tennis. I like to play chess. I like to work in the garden. À vous. Demandez à quelqu'un s'ils aiment quelque chose. De cette façon. Do you like to work? Do you like to work in the garden? Do you like to play? What kind of sports do you like? Quel genre de sport aimez-vous? What kind of sports do you like? I like tennis. I like swimming. I like running. I like basketball. I like soccer. What kind of music do you like? I like rock. I like jazz. I like opera. I like soukous. I like Cameroonian music. What kind of music do you like? Et la liste continue. What do you like? Voilà, on a terminé cette 27e leçon d'anglais. Did you like it? L'avez-vous aimé? Did you like it? Il ne sera pas trop difficile pour vous de vous exercer. Pensez à toutes vos activités courantes et à vos loisirs et dites à haute voix lesquelles vous aimez ou lesquelles vous n'aimez pas. I like to go to the market. I like going to the market. I like working at VOA. I like teaching you English. Ne manquez pas de nous retrouver la prochaine fois. Until then, practice your English. Goodbye.
Voulez-vous mieux parler l'anglais?
C'est fait.
Avec Anglais Télé, notre programme interactif télé multimédia.
C'est à votre tour de parler.
It's your turn to talk.
No, it's my turn to talk.
No, it's their turn to talk.
Mais vous aurez l'occasion d'intervenir en direct.
Et de pratiquer l'anglais avec...
Michel.
Et Roger.
Nous répondrons à vos questions.
Nous vous aiderons à formuler vos phrases. Participez à Anglais Télé.
Retrouvez-nous aussi sur notre groupe Facebook Anglais Télé.
And welcome to Anglais Télé. Bonjour et bienvenue à Anglais Télé. I'm Michelle Joseph and I have a special guest here.
Je suis Daniel Crafton. Bonjour aussi.
Bienvenue à Daniel Crafton. Welcome to Daniel Crafton, who is helping me in my lesson today. We're going to talk about basic forms of communication. Les formes les plus simples et les plus ordinaires de la communication.
Les vraies plus simples.
Très, très simple. We are starting at the bottom. Okay? Even though I think Dan likes television and radio. Or is it radio and television?
Radio and television.
Okay. But we're going to talk about basic human forms of communication. Okay, so for that, we have to go all the way back to the little baby.
Goo goo gaga.
Goo goo gaga.
Which means something.
Obviously. Ooh, all right. Those beautiful...
The baby knows what it means.
The baby is trying to communicate even as tiny as they are. They are trying to reach out and express themselves, right?
Right.
And it's usually with sounds coming out of the mouth. So they're trying to copy talking. They're trying to mimic us.
And if they can't do it by talking, they'll pinch their mother.
Right, or they'll start screaming or kicking. Yeah, so sounds to express themselves that turn into words because they start to copy the parents and everybody around.
Like you said, it all starts with sounds.
There
are no words at that stage.
No words. It starts with sound and body movement.
Right?
And... of course, for people who cannot make sounds, they can learn sign languages. So with talking, we are talking with words. And with words, we
And sounds.
Sounds.
And signs.
Signs. And we can make sentences that mean something. So, right?
Right.
Okay. And these sentences, these words, talking, they comprise of... language.
Whatever language.
Right, so it could be any language, but...
many languages.
Yeah, so language is the big general definition.
And it's also a big barrier.
Yes, it's a big barrier because now we can go beyond that barrier. You had mentioned body language, Dan.
Right.
So if you're communicating... in a non-verbal, I think that's the term, non-verbal communication, this is...
that's everything. It's body language.
Body language, this threatening finger, watch it, be careful.
Or the mother, like this, yeah, like, son, come home on time.
All right, so we're going to quit on this little note here and move on to the next level of communication. Thanks, Dan. Hello and welcome back. Welcome to Anglais Télé. And we are talking about forms of communication We've already talked about talking and sounds, and now we're going to go to a learned technique to communicate, which is writing, to write, le verbe écrire, and to write. Voilà. So this, of course, expands communication
into books and newspapers and magazines and all sorts of sources that people read that what you write.
Letters, right. Des lettres, des livres, les journaux, les magazines. Tout ce qui a trait à l'écriture. Everything to do with writing, you can discover through these mediums. And what's your favorite, Dan?
Favorite writing?
Yes. What, do you like newspapers? Do you like books?
Books.
Books. Me too. I have a soft spot for books.
I read a book all the time.
Yeah, me too. I'm a bookworm.
But I like classic writers.
Yeah.
The problem with classic writers, you know, is that it depends on what language they write in. It can be confusing. It can even cause wars.
Oh.
It can cause peace.
Oh, absolutely.
Right?
And it can unite people. I mean, just
exactly.
Like War and Peace by Tolstoy. Exactly. Yeah. These human topics, they transcend time and culture. So if anyone can read these major books, classics.
Well, books can, like Uncle Tom's Cabin.
Okay, La Case de l'Oncle Tom.
Right. It's a book, an American book, by a woman named Harriet Beecher Stowe.
Yes, that revolutionized the whole...
Well, it also caused the Civil War.
That's true, because, you know, she created a personal relationship that suddenly brought the status of slavery into the homes of people as they were reading, and they could relate to the injustice.
They could relate to the injustice, and that's what caused the war.
Right.
Because they wanted to keep their slaves and...
Right, those who wanted to keep them.
Slaves.
Right.
And they caused the country to break in two.
Right, exactly. So books, writing is very powerful.
Oh, gosh, yes.
So is writing more powerful than talking?
I think it is. Well, the Gutenberg Bible, the first book ever written.
That's true.
You know?
I guess writing is a continuation and an expansion of that initial talking.
And the books that were written that were very controversial, like some we've just named, caused peace and wars and enlightenment of education.
Oh, absolutely.
And knowledge.
Absolutely.
Right? So, yeah, I think writing is really
important. Writing is very powerful. L'écriture, écrire.
And if reading doesn't mean anything
without,
if you don't have writing.
Absolutely, because reading is the act of deciphering writing. It's kind of like a discovery. You have to decipher the letters and the words together and the sentences together, and that creates a whole picture.
And, of course, in different languages, the same phrase could mean something entirely different and be taken out of context and cause problems.
Right, and just the act of learning how to read in a language, it takes quite a few, takes a while. And then, of course, some languages, the reading is in different directions.
Right. Up and down and right and left.
Right. Up and down for Chinese characters.
And Japanese.
Japanese and I think Korean as well. Not sure.
No, Korean's right and left.
Oh, right and left for Korean.
Right
and I think for Arabic, it's left to right. So
and English is right to left.
English and a lot of the Romance languages
French,
right to,
Italian.
Yeah.
You know, Spanish, all those languages.
Right. Latin-based, I
right.
guess.
Latin-based
so
languages.
So it's such a huge world, writing by itself and then reading by itself. So
and of course the writers that wrote a lot of times had their own ideas about history and life and how the world should be formed and...
Absolutely. And if, you know, if you're not reading many books, many newspapers, you can stay locked in to a particular narrow viewpoint.
Right. Well, the book you talked about, War and Peace, is 1,200 pages.
Exactly.
You know? Right.
Okay, so we've covered writing. I think we have, and we will get back with you about another form of communications.